Carnet de voyage. Une invitation. Can't
anybody see? Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce carnet de voyage en Laponie où nous retrouvons le guide photographe Nicolas Fragiacono. Bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Nicolas, on avait fait ensemble un voyage emblématique en Oural il y a un petit moment. Et aujourd'hui, c'est un voyage phare en Laponie. Alors pourquoi phare? Parce que c'est un voyage photo en quête d'une lumière sublime, celle de l'Arctique. Et bien sûr des aurores boréales, mais on en parlera en deuxième partie. Alors, cette lumière de l'Arctique.
Comment te la raconter
en deux mots? Dis-nous tout.
En deux mots, c'est très difficile. C'est des lumières qui sont assez particulières. Le jour à l'époque où on y arrive, donc début janvier, est vraiment très court en montant sur la plus haute bosse qui est à 800 mètres d'altitude. On arrive à avoir une heure de jour le 5 janvier. Donc de jour, je veux dire plutôt de soleil, parce que le jour est quand même très présent pendant plusieurs heures. Et ce moment-là nous apporte des lumières qui sont que nous, on connaît pas dans nos montagnes, sauf à quelques moments précis de la journée, mais c'est tellement court qu'il faut vraiment être attentif.
Mais on parle d'ondulations féeriques d'orange et de jaune sur des fonds bleus polaires. C'est ça qu'on
retrouve. Ouais, le bleu polaire, c'est un mot que l'on a inventé nous, hein, mais c'est un bleu qui reprend un petit peu les tons de lumière dus au froid. Donc une température normale en cette période, c'est autour de moins 28, moins 30. Ça laisse quelques marques quand on ne fait pas très attention. Sur le bout des doigts.
Oui, ouais, il faut être équipé.
Ah, il faut être équipé, il faut être très rigoureux. Les conditions ne te pardonnent pas beaucoup d'erreurs.
On va faire un petit rappel géographique sur la Laponie. Donc, elle s'étend sur 4 pays, Finlande, Norvège, Suède et Russie. Oui. Et les deux tiers sont au nord du cercle polaire.
Exactement, oui. C'est cette partie de la Scandinavie qui est au-dessus du cercle polaire, qui est habité par un peuple que l'on appelle le peuple Sami. C'est essentiellement des éleveurs de rennes. C'est obligatoirement des éleveurs de rennes lorsque on est en Norvège et en Suède, alors que la Finlande a ouvert la possibilité d'être éleveur de rennes à partir du moment où on est finlandais.
J'ai compris qu'il ne fallait surtout pas les appeler lapons, c'était péjoratif, ça voulait dire porteur de haillons.
Ouais, c'est pas comme ça qu'on les appelle là-bas, hein. C'est un gros mot, ouais.
Et Sami, on a envie de te dire, as-tu fait ami avec des Samis?
Parce que avec tu as plaisir.
Passé... ouais, avec plaisir. Tu as passé un mois en faisant quatre petits voyages, oui. Et tu y vas tous les ans.
Oui, oui, j'y vais tous les ans depuis maintenant 5 ans. Enfin, sauf quand on nous empêche d'y aller, hein. Les deux dernières années étaient un peu difficiles. Mais oui, autrement, ouais, j'y vais régulièrement. Et donc cette année, on a enchaîné des séjours du 4 janvier jusqu'au 30. Génial.
Et l'histoire des Samis est vieille de 10 000 ans. On les appelle les âmes nature.
Oui, c'est les premiers habitants de cette partie du haut de l'Europe. Hein. Donc dès que les glaciers ont disparu, des énormes glaciers ont disparu, les forêts ont pris la place de cette glace. Il y a des lacs. Partout où il n'y a pas d'arbres. Et donc, le peuple est arrivé pendant ces moments-là.
Ils avaient une culture chamane très forte, mais je crois que c'était...
Oui, au moment où les pays ont voulu récupérer les minerais qui étaient dans cette partie du nord de l'Europe. Donc, il y a eu une exploitation de ce territoire. Et puis, on a grosso modo exterminé au mieux le peuple qui y habitait. On a commencé par les chamans qui étaient
les
guides spirituels de cette région.
Ça ressemble un peu au massacre des Indiens pour l'Amérique du Nord.
Ça ressemble à beaucoup de massacres. Hein. On peut remettre en parallèle l'Amérique du Sud, les Indiens et puis bien d'autres peuples.
Alors au point de vue saison et lumière, l'hiver c'est sans soleil du tout et l'été c'est le soleil de minuit, soleil permanent. Et toi tu y vas en janvier parce que le soleil est au-dessus de l'horizon.
Oui, on y va pour le début du soleil, donc c'est ce qu'on appelle la fin du Camos. C'est la partie où il fait ce qu'on appelle la nuit polaire. Moi j'y suis jamais allé au moment où il fait très sombre et j'ai toujours eu des lumières, que ce soit à l'automne ou au début de l'hiver, enfin, au milieu de l'hiver comme en janvier. Quand tu es photographe, c'est quand même la base, c'est d'aller chercher des lumières particulières. Et là où on est bien servi, oui.
C'est ton expérience qui te permet d'enchaîner les quatre séjours et de trouver des chalets isolés dans la taïga. Parce que tout autour d'un chalet isolé, tu vas trouver des spots photos qui sont seuls au monde.
Oui, exactement. Donc, de mon expérience des plusieurs années de voyage, m'a amené à rencontrer des gens, et notamment donc Emmanuel qui a ce petit chalet au bout du monde.
Ouais.
Puisque le premier village proche de ce chalet est à peu près 5-6 kilomètres. Et quand on parle de village, il doit y avoir 100-150 habitants. Et donc le premier village après cette sorte de village-là est à 40 kilomètres. On est un peu seul au milieu de rien. C'est magnifique.
On imagine que tu y vas avec des raftracks.
Non,
c'est pas aussi compliqué que ça.
On est dans un pays quand même qui est moderne, qui est civilisé. Les routes sont magnifiquement dégagées. Des beaux exemples de déneigement. Et on roule sur des routes enneigées aussi facilement que ce qu'on roule sur nos autoroutes.
C'est
des clichés.
Ouais, c'est des clichés. C'est des petits groupes de 6 que tu
as. Nous, on a choisi cette formule de petits groupes intimistes, donc 6 personnes dans le groupe. Loin de tout, c'est des immersions totales dans les pays où on va. On ne va pas qu'en lande. Mais c'est notre volonté, ouais, de partager avec les habitants aussi. C'est plus facile d'arriver à 6. Avec un bus de 50.
Le contact avec les habitants, tu les rencontres tout de suite quand tu arrives?
C'est l'opportunité qui fait. Beaucoup sont éleveurs de rennes. Et donc la période où on y va, c'est une des grosses périodes de travail pour ces gens-là. Est-ce qu'ils finissent la nuit totale, on va dire. Et donc ils sont en recherche de leurs animaux qui sont partis un peu à droite et à gauche. Donc ils ont un boulot assez conséquent pour aller récupérer leur bétail.
Et tu me disais qu'en Finlande spécialement, contrairement à la Norvège ou la Suède, ils ne sont pas obligés d'être Sami pour être éleveurs.
En Finlande, oui, mais bon, tous les éleveurs de rennes que je connais sont Sami, même en Finlande.
Et tu peux faire un parallèle avec ceux de l'Oural, puisque tu fais aussi des voyages en Oural, on en parlait au début de l'émission.
Oui, la différence avec l'Oural, donc dans l'Oural, ce sont encore des nomades véridiques, hein, donc ils se déplacent avec les rennes en fonction des périodes. Leurs traîneaux sont tirés par des rennes. Alors que les ex-nomades de Laponie, aujourd'hui, se déplacent en quad, en motoneige, avec les animaux sont balisés avec des GPS.
Ah oui, des colliers.
Pour arriver à les retrouver plus facilement. Et donc, c'est vrai qu'il y a pratiquement plus de nomadisme dans l'élevage de rennes dans ces pays-là.
Un mot sur les levées et couchées de jour que tu organises sur des tunturi. Un mot un peu étrange.
C'est le mot qui veut dire c'est des grosses bosses en fait, qui ont été des grosses montagnes, puisqu'on avait des montagnes comme les nôtres ici, et qui ont été rabotées à l'époque glaciaire. Donc, c'est des grosses bosses toutes rondes, qui paraissent toutes proches, et tu fais des kilomètres et des heures de marche et pour arriver sur une autre bosse qui te dit « Ah ben, il y a encore une bosse après
». Il y a quelque chose qui est important en Finlande, c'est de se baigner dans un trou de glace. Je crois qu'ils appellent ça l'avant Twinti. Et oui. on dit qu'on découvre le courage intense qui s'appelle le sisu, qui veut dire trip en finlandais.
Oui, ils ont quelques trucs comme ça.
Quelques traditions.
Oui, je n'ai pas encore testé. Non, moi, la fin du sauna, c'est de me rouler dans la neige, c'est déjà bien.
Pendant la guerre de 1939, ils avaient réussi à repousser les Russes qui étaient avec 30 fois plus de chars, 10 fois plus de militaires, simplement grâce à ce sisu, ce courage intérieur.
Ah oui, mais les peuples qui savent vivre dans le froid savent se protéger et savent se servir du froid pour en être un allié, quoi.
Tu as été jusqu'à tester le bonbon à la réglisse, le salmiakki?
Oui, ça c'est facile.
Oui, ça c'était pas trop dur. Tu as été très courageux parce que c'est compliqué ça.
Bon, au début, ça ressemble à un réglisse de chez nous. Et puis bon, c'est quand c'est dans la bouche que c'est pas terrible. Mais bon, c'est assez addictif.
Ouais.
J'ai fini le paquet.
Ouais, d'accord. On va se ressourcer avec un chant lancinant traditionnel de Marie Boine que tu m'as apporté. Mmh. Et qui est ta musique de chevet, on peut dire. Et qui est dans un langage qu'on appelle le joik.
Ouais, c'est leur musique traditionnelle.
Aussi envoûtant que la Laponie?
Aussi, oui.
En deuxième partie, on parlera des aurores boréales, du réchauffement climatique que tu as constaté, et puis du Père Noël. On se retrouve à nouveau en Laponie avec Nicolas Fragiocomo. Sur ton site, il y a une photo en pleine page là, qui est extraordinaire. C'est une aurore boréale, bien sûr, comme un éclair de plasma vert nébuleux, zébrant une taïga sauvage où trône une tente sémaphore jaune luminescent. Donc révèle-nous les secrets de cette photo extraordinaire.
Bravo de décrire une photo à la radio.
J'engage tous les auditeurs, on laissera ton site à la fin pour qu'ils aillent voir cette photo.
Avec plaisir. Les séjours que l'on propose au mois de janvier sont des séjours dédiés aux photographes. La photo, c'est de la lumière, mais c'est aussi un peu de mise en scène. Et donc, on a utilisé un tipi que se servent les samis
ouais,
lorsqu'ils vont dans leur camp d'été, pour égayer un petit peu ce panorama. L'aurore boréale enrichit la photo, donc ça va ensemble.
Tu as cette espèce de zébrure d'aurore qui est dans un ciel polaire avec toutes les étoiles blanches et ce bleu dont on a parlé. Tu atteins cette photo tout de suite ou il faut patienter pendant des heures ou toute la nuit?
Des fois des jours. L'aurore boréale, c'est un phénomène qui est naturel. Pour donner un ordre de grandeur par rapport à ce que nous on connaît, vous avez un orage. Il y a systématiquement un arc-en-ciel. Il y a des orages presque tout l'été. Et on voit, si on a de la chance, on voit un ou deux arc-en-ciel dans l'été. Donc là, les aurores boréales, c'est plus précis. On a des applications maintenant qui nous permettent de pouvoir anticiper l'arrivée, ça, mais ça reste toujours un phénomène naturel. Et donc, ce phénomène, on ne peut le voir que lorsque le ciel est clair, sans nuages, ou avec un minimum de nuages. Et derrière le ciel clair, il y a la voûte céleste qui est à cet endroit-là incroyable.
Et ce qui est marrant, c'est qu'elle n'est pas très lumineuse. On a des espèces de points comme des flocons de neige dans la voûte céleste.
C'est assez difficile. Les réglages sont assez simples pour régler notre appareil photo. Mais c'est assez difficile parce qu'il n'y a pas une aurore qui ressemble à une autre aurore. L'intensité de chaque phénomène est totalement différente, donc il faut reprendre des réglages au fur et à mesure. Et ça demande assez de pratique pour pouvoir être à l'aise dans des températures qui ne sont pas très confortables. Et puis pour pouvoir réagir le plus rapidement possible, parce qu'une aurore peut durer quelques minutes. Ou quelques heures.
On dit qu'elle danse dans la nuit. Alors, c'est vrai, elle se modifie en permanence dans la nuit.
Oui, les aurores un peu puissantes, c'est il faut arrêter de prendre des photos, il faut juste regarder.
Comme un ballet, quoi.
Oui, c'est des moments magiques, quoi. Là, on oublie tout. On oublie le froid aux pieds, le froid aux doigts, et on comprend le phénomène. Et puis surtout, toutes les histoires qui ont servi les peuples Sam qui découvraient ces aurores dans les nuits polaires. Ils ne savaient pas d'où ça arrivait. Donc il y a des légendes assez terrorisantes, on va dire.
Et oui. Et les Samis, comment ils les ont interprétées? Quelle est la légende principale?
Il y en a plusieurs légendes, mais en gros, donc l'aurore boréale était un mauvais présage. C'était le présage de l'hiver, puisque l'été, ils ne les voyaient pas, donc ils pensaient que c'était pendant l'hiver et qu'il allait leur arriver malheur. Et donc beaucoup ne sortaient pas pendant les soirées pour pas être absorbés par les mauvais esprits.
Pour capturer ces moments, tu as peut-être des trucs d'initiés, de professionnels. Je veux dire, pour amener exactement au bon moment, comme tu disais.
Oui. Je t'invite à venir sur une petite semaine et puis je te montrerai plein de détails. Mais bon, grosso modo, c'est la connaissance du terrain. Puis on est un petit réseau de copains photographes et donc on s'envoie les bons conseils au bon moment.
Et ça marche.
Ça marche souvent, oui.
Ces aurores boréales, elles sont liées aux tempêtes solaires et elles provoquent des pertes d'orientation pour les animaux. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti vous-même?
C'est beaucoup de magnétisme. Et les phénomènes les plus perturbants, oui, c'est tout ce qui est radio, radiotélescope, tout ce qui est électrique. Oui, les aurores boréales puissantes, oui, modifient pas mal de choses à ce niveau-là.
Donc on imagine si par exemple vous aviez quelqu'un de blessé ou quelqu'un qui fait un malaise, on ne peut pas communiquer par radio avec des secours?
Dans les indices de ce qu'on va voir, on est largement en dessous de ce qui puisse faire des interférences. Mais c'est arrivé que plusieurs fois, des gros indices de puissance ont failli faire des catastrophes. Ouais.
Parce qu'on se demande si les Finlandais, pour les secours ou pour le Covid, est-ce qu'ils imposent des règles très strictes?
Pour les secours, on n'est pas au fin fond de la Sibérie comme je peux aller quelquefois.
Oui, au lac Baïkal.
Ouais, le lac Baïkal en est un endroit, mais l'Oural, où on est à, je sais pas, 2, 3 jours d'engin, du premier endroit où on peut déclencher un secours, là, c'est
Ouais.
compliqué. Mais non, en Finlande, on est à Gap, c'est pareil.
Quand vous êtes dans le chalet isolé, on imagine que si par malheur quelqu'un soudain se trouvait positif, est-ce que les Finlandais imposent un igloo dans lequel on congèle les positifs? Une espèce
Alors
de traitement par le froid?
moi je
Ouais.
enfin je découvre le phénomène du Covid-19, et pour moi c'est quelque chose, ça, si ça doit passer ça passera, mais c'est pas ça qui me torture l'esprit. Ce qui me fait le plus peur par contre, oui, c'est lorsqu'on est en raquette à 1 ou 2 heures de marche et qu'il fait moins 30. C'est que un de mes participants se blesse. Et bon, même si les secours sont bien organisés, arrivent rapidement, c'est minimum 1 heure, 1 heure et demie. Et dans ces conditions, ça peut vite être compliqué. Mais le Covid, c'est un rhume, hein.
Ouais,
On va dire comme ça.
c'est bien
Ah non.
de rencontrer des grands voyageurs comme toi
Oui.
qui voient que ce n'est qu'un rhume. Ouais.
Oui. Enfin, je sais pas, hein, je l'ai pas eu encore, donc.
Par contre, tu as constaté que le réchauffement climatique était vraiment présent en Finlande. Et alors, le paradoxe, c'est une forme d'ironie parce que ça t'aide à voir les aurores, tu m'as dit.
Oui, le réchauffement climatique, c'est constaté, oui. Et donc, on y était. La première semaine, il faisait les températures traditionnelles, hein, moins 28, moins 30. Et le lendemain, on s'est réveillé, on avait moins 5 devant le chalet. Et c'est resté pendant 10 jours dans ces températures qui sont relativement chaudes pour là-bas. On a même une journée de pluie, donc à 3 degrés.
Ouais, donc c'est vraiment significatif.
Ben c'est quand même très embêtant. Ouais. Pour donner un ordre d'idée, puisqu'on est à Gap, on va
Resituer, ouais.
resituer les températures chez nous. C'est comme si on avait en station de ski aujourd'hui 25 degrés pendant 10 jours, quoi. Donc les mêmes écarts. Oui, tu me disais, c'est très confortable pour les soirées d'aurore boréale. C'est plus confortable de passer une soirée à moins 5 degrés qu'à moins 30.
Et ça joue aussi sur la couverture nuageuse pour les ciels, je suppose.
Effectivement, il y a eu cette année, on a eu plus de couvertures nuageuses, mais bon, ça va très vite dans ces régions. C'est reste couvert pendant 2 heures. Puis 2 heures après, le vent se lève et c'est tout clair pendant le reste de la nuit. Donc, faut pas écouter les prévisions. Il faut sortir régulièrement, voir le ciel, toucher du doigt, vraiment les conditions sur le moment, quoi.
La Laponie, c'est aussi le pays des rennes et bien sûr du Père Noël, parce que le Père Noël est dans le sud de la Finlande. Et on m'a parlé de la montagne de l'oreille, où le Père Noël entend les enfants qui ont été sages. Est-ce que tu as entendu ça?
Ben, je sais
Ou
pas
c'est une
si.
légende?
Au moment, je ne l'ai pas entendu, mais lui, il a dû m'entendre parce que chaque fois, il m'offre de très beaux cadeaux.
Il t'offre des clients heureux.
Et oui, si, oui. Et moi aussi.
Je me demandais tout bêtement si, pour tes photos, quand tu étais dans des positions extraordinaires pour les aurores boréales, est-ce que tu n'étais pas gêné par des convois de rennes volants qui emportaient les cadeaux en retard? Parce que
Alors
comme tu étais en janvier.
on peut les voir, hein, oui. Mais c'était des rennes retardataires, parce que normalement, où ils ramenaient des cadeaux qui ont pas pu être livrés.
Tu les as vus, donc le Père Noël existe vraiment.
Affirmatif.
On va laisser ton site internet.
Alors c'est très facile, hein, Nicolas Fragiacomo, tout attaché, .com. Et vous allez retrouver mon activité principale qui est, en plus d'être accompagnateur en montagne, je suis
Photographe.
photographe, donc vous allez retrouver une partie de mes séjours photos. Ceux qui sont programmés, et puis après, je travaille beaucoup à la demande. Si tu veux venir
Mais
sur un séjour,
il va
on peut le
falloir.
programmer, et puis on va faire un séjour spécifique. On ira voir le Père Noël.
Sur chacune de tes activités, ça donne un éventail de photos.
Oui, il y a diverses galeries où vous allez pouvoir partir en voyage sur la galerie sans passer par une proposition d'un séjour photo.
Et tu viens de mettre les photos de la Laponie tout récemment.
C'est tout chaud là. J'ai réussi à faire le tri de 1 mois de photos. C'est un peu difficile. Ouais.
Comme Saint-Exupéry, tu as fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, hein, c'est ce qu'on
Oui.
trouve sur ton site.
Oui.
Si on ne s'en retenait pas, on pourrait te bombarder le petit prince de la grande focale. Mais on se
Bon.
retient quand même, on se
Oui,
retient.
retiens-toi.
Merci Nicolas d'avoir tuntourisé nos esprits et surtout de nous avoir fait toucher du cœur la nature brute de la Laponie et les âmes natures que sont les Samis.
C'est un grand plaisir de partager ça avec vous. Thank you.
carnet de voyage. Une invitation. Ooh, can't anybody see?